Electric Troubles Radio Show, bonsoir. Ah, c'était vraiment bien. Oui, il faut dire ce qui est. C'était vraiment bien ce samedi avec tous ces groupes, les shérifs, tous les gens qui souriaient. Oui. Et vraiment, vraiment une très très belle soirée, une grande soirée, peut-être même une soirée de légende. C'était à l'espace Mitterrand, donc les shérifs, Capsula, Billy Hornet, les Burning Heads, les Boules en Vrac. Je crois qu'il était difficile. Certainement de faire mieux, difficile de faire mieux en termes de public. Voilà, les gens étaient vraiment heureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être difficile de faire mieux aussi en termes de promotion, parce que quand même l'équipe du Café Musique a vraiment cartonné là-dedans. Le mal qu'ils se sont donné, c'est assez terrible pour que cette soirée se passe bien. Elle s'est bien passée, tout le monde était content. Voilà. Ça fait du bien et je pense que ça va tous nous relancer pour un moment, certainement, et en espérant que tout ça se retraduise sur un petit peu plus de présence, notamment en concert rock'n'roll dans le coin dans les mois à venir. Voilà, tiens, d'ailleurs, je vous glisse une chose, si c'était une grande soirée samedi soir, il y en aura d'autres ce week-end aussi, puisque Barents Whitfield sera au Café Musique. Alors c'est après le match de rugby, c'est particulier, 22h30 ou 45, je sais plus exactement, avec les Baladurians, me semble-t-il, en ouverture. Donc je vous invite à aller voir cet énorme personnage de Barents Whitfield au Café Musique. Dimanche, il y aura c'est au Pochin. Alors, je crois que c'est à 20h, il y a les Top Sitterviz, on les avait reçus dans Electric Troubles, si je me rappelle bien. Pop Punk, et c'est très très bon, ils sont de Poitiers, donc surtout n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la place Pitrac et du Pochin. Et bien sûr, il y a ce week-end Urban Land, où on ira tous faire un tour, soit pour voir des battles de hip-hop, soit pour voir du skate, soit pour voir les différents ateliers, du graffiti, des concerts, des DJ, etc. Donc un week-end super chargé. Et aujourd'hui, dans Electric Troubles Radio Show, une interview, comme bien souvent, vous le savez, les Washington Dead Cats. Alors pourquoi je les ai choisis? Tout simplement parce qu'ils seront, je vous ai déjà prévenu, c'est le 31 octobre, donc au Café Musique de Mont-de-Marsan, organisation Dr Boogie. Ils joueront avec les Jokers, donc d'ici quelques instants, nous aurons Matt, le chanteur, au téléphone. Les Washington Dead Cats, bon, beaucoup de gens, beaucoup parmi vous les connaissent, ça fait un bail qu'ils sont sur la route, puisque en fait ce sont les 30 ans qu'on fête aujourd'hui. Mais écoutez, on va se passer un petit morceau et on retrouve Matt juste après. Johnny Cash pour commencer l'émission. Solitary Man, c'est parti.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue. But that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man. Don't know that I will, but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
Voilà donc à l'instant un premier morceau dans Electric Troubles. Il ne s'agit pas des Washington Dead Cats, mais c'était Johnny Cash, vous l'avez tous reconnu. Donc nous sommes au téléphone avec Mathias, donc alias Matt Firehair, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà, donc ça c'est quoi ? C'est un nom de scène que tu as trouvé il y a très 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 longtemps ou c'est un truc qui est arrivé au fur et à mesure ?
En fait, mais c'est mon... C'est entre autres mon nom, j'en ai pas d'autres, j'en ai plus d'autres, j'ai disparu sous cette identité mystérieuse.
D'accord.
Au début du groupe. Voilà.
Vous aviez fait tous pareil ? Vous avez tous pris un prix ?
Oui, oui, ouais. On a toujours tous fait comme ça, il y en a aucun de nous qui a un vrai nom.
D'accord, ok, mais ce sont quand même des vrais gens sur scène.
Un vrai nom comme on l'entend à l'état civil.
D'accord.
Deux super-héros, tu vois, est-ce que Superman, on préfère l'appeler Superman que Clark Kent ?
Oui, là, voilà, oui tout à fait.
Pareil.
C'est moins, c'est voilà, plus glamour.
C'est mieux Matt Firehair que Jean-Paul Dubois, par exemple.
Voilà, exactement. Dis-moi, juste avant de se passer un premier morceau qui sera Only Vinyl is Cool, est-ce que tu peux, globalement, pour les gens qui connaissent pas encore les Washington Dead Cats, donc qui n'ont pas encore écouté de morceaux, me présenter le groupe, voilà.
C'est un groupe qui a commencé fin 84. On fait ce qu'on pourrait appeler un mélange de rockabilly, de rock garage, de rock 60s, de surf music avec une énergie punk. Voilà. On a signé à l'époque en 84-86 sur Bondage Records, qui est le label qui a lancé le rock alternatif. Il y avait quatre groupes à l'époque sur ce label. Il y avait les Béroriers Noirs, les Ludipop 88, Washington Dead Cats et Nuclear Device. C'est ce qui a donné le rock alternatif en France à la base, qui après ça a été suivi par d'autres groupes sur Boucher ou Gouillard. Et parallèlement à ça, on a été considéré aussi, en fait, bizarrement, dû à notre double identité musicale, comme un des premiers groupes de psychobilly, punkabilly en France, en fait. Vu que ça a commencé en Angleterre en 80-82, avec après le passage des Cramps en Angleterre, il y a des groupes comme les Meteors, etc., qui sont formés, et c'est arrivé après en France. Voilà. Donc on a une identité, par exemple, en Allemagne, en Italie, qui est celle d'un des premiers groupes de psychobilly ou de punkabilly, alors qu'en France, on est considéré comme un des premiers groupes, comme un des groupes fondateurs du rock alternatif. Voilà.
Okay.
Tout ça restant que la musique, selon notre identité à l'étranger ou en France, reste la même, un mélange de rockabilly, de punk, de garage, etc. Quoi.
D'accord. Eh bien, on va s'écouter un premier morceau, comme promis, et puis on se retrouve juste après. Only Vinyl is Cool. C'est parti.
Cold, even if it's
Voilà, donc premier morceau des Washington Dead Cats. Alors, pour mes questions, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, j'espère que ce sera pas trop vaste comme question, il y a eu quand même différentes vies, on va dire, chez les Washington Dead Cats. Est-ce que les objectifs d'aujourd'hui du groupe des musiciens sont les mêmes? Est-ce que le type de vie de groupe est le même, le discours est le même? Ou est-ce que tout ça, ça a changé largement en fonction du temps?
Non, ça a pas changé. C'est un groupe qui a commencé en faisant du rock et qui est resté. En fait, on venait à la base du, comme tous les mecs qui font les groupes, on venait du public. Notre objectif à la base, c'était de faire des disques abordables, parce que quand nous on était gamins, on n'avait pas de quoi les acheter, au même titre que c'était de faire des places de concert tant que possible, qui dépassent pas un certain tarif pour que les gens puissent y aller. Nos disques, notre dernier album en vinyle, par exemple, avec une pochette intérieure en vinyle vert, est vendu 15 euros. Le dernier CD est vendu à 10, voire un peu moins de 10. Disons que là-dessus, ça n'a pas changé. Après, c'est vrai que le rock alternatif, ça a été avec les Bérus, énormément de tournées pour le Scalp, qui était la section Crément Anti-Le Pen. Ça n'a pas changé non plus. Voilà, on n'a pas changé. On garde la même envie de combattre les extrêmes. Tout en faisant de la musique. Après, c'est vrai que notre musique, ça reste du rock'n'roll. C'est avant tout une musique pour faire danser les gens, pour que les gens viennent au concert, boivent des coups, dansent, se marrent. Et voilà, ça reste une musique, c'est du rock'n'roll. Après, il y a eu des changements dans le groupe, mais ça s'est toujours opéré de manière assez simple. On n'a jamais fait passer... C'est pas un job, en fait. C'est un boulot en sens que quand tu montes sur scène, les gens sont déplacés, ils ont payé, donc il faut faire... le boulot, si tu veux, tu peux pas décevoir les gens parce que c'est le minimum de respect à avoir par rapport aux gens qui se déplacent pour te voir. Après, nous, notre manière de concevoir le groupe, ça a toujours été, on n'a jamais passé d'annonce pour trouver quelqu'un. Ça a été toujours le pote d'un pote qui venait et quand humainement ça fonctionnait derrière musicalement, quoi. Donc, on a une démarche assez communautaire, quelque part, quoi.
D'accord.
Assez clanique.
Oui. Comment tu, même si tu l'as abordé un peu, mais comment tu définirais l'âme des Washington Dead Cats?
Ouais, c'est l'envie de faire en fait du rock'n'roll avec une énergie punk, avec une démarche, avec une démarche assez proche du monde du monde cinématographique, c'est-à-dire que les chansons restent pour nous des choses assez racontées. On aime bien avoir un décor ou un backdrop qui représente un peu ce qui se passe. Chaque album correspond un peu à un concept avec des chansons qui s'y rapportent. On fait nos disques de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a toujours une chanson longue sur nos disques. Et ce qui fait que le groupe tient, c'est que musicalement, on n'est jamais tenu à une seule musique. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire que du punk ou que du rockabilly. On a déjà mélangé ça, puis on a élargi à la country, au blues, au garage 60s, au surf, enfin plein de choses, ce qui veut dire que quand on fait un album, on s'ennuie pas, on n'a pas l'impression de se répéter. Donc c'est pour ça que le groupe tient aussi, parce que artistiquement, c'est assez enrichissant pour nous d'aller explorer pas mal de territoires différents. Il est vrai que notre culture reste quand même des années 40, 50, 60, et ça s'arrête à 77, à la première vague punk rock, quoi. On n'est pas du tout dans les trucs, dans le métal, etc. Ça ne correspond pas, mais on reste très rock'n'roll au sens large.
Et est-ce que...
toujours avec une énergie punk, je dirais.
D'accord. Est-ce que le fait de s'ouvrir comme ça à plein de choses différentes vous a pas amené un jour à vous dire, tiens, on est en train de se perdre dans tous ces mélanges, ou... Comment vous avez fait pour trouver le juste équilibre?
Je pense qu'il y a un moment où on a fait un album qui n'était pas bon, où on s'est perdu, et ça nous a remis les pieds sur terre. On s'est dit, mais là, on est en train de faire n'importe quoi, et on s'est remis en question, et ça nous a permis, après, sur le nombre de disques qu'on a fait, une dizaine, il fallait au moins qu'on en fasse un mauvais pour arriver à se recentrer, je dirais. Mais quand je dis mauvais, il était mauvais.
D'accord. Mais d'ailleurs, vous êtes... parce que là, j'arrive pas à savoir lequel c'est. Vous êtes... c'est un moment où vous avez continué après, ou c'est un moment où vous êtes arrêté quand vous avez fait...
C'est un moment où on s'est arrêté. D'accord. Moi, en tant que chanteur, j'ai fait un autre groupe de blues, un peu hip-hop, dans le genre de Jellyhead Special Sauce ou choses comme ça.
Ouais.
Après, j'ai montré un groupe de jazz, crooner, que je continue, avec lequel j'ai fait deux albums aussi, qui est plus en genre, où je fais des standards de Nat King Cole, Gershwin, Sinatra, etc. Mais on a remonté les Wash peu de temps après pour faire avant tout des concerts de soutien, parce qu'on pensait que le groupe devait avoir une utilité autre que celle de juste satisfaire l'ego de ses membres.
Ouais.
Quand on s'est reformé, tu vois, on avait envie de se marrer, et puis on s'est dit, tant qu'à se reformer, le groupe a un minimum de notoriété, autant que ça serve à quelque chose. Donc pendant 3-4 ans, on a fait des concerts de soutien, puis après on est parti en tournée, ça nous a plu, à partir de là, on est reparti.
D'accord.
Okay. On a refait des disques, voilà quoi. Mmh. On voulait pas être forcé, on voulait pas se reformer, on nous a proposé de l'argent pour nous reformer, ça nous intéressait pas, on voulait pas être forcé, on voulait le faire quand nous on avait envie de le faire.
D'accord.
On répond à aucun plan de carrière, on répond qu'à notre manière de sentir et de voir les choses, quoi.
Pourquoi? Parce que vous avez une vie assise à côté, je veux dire? Enfin, assise dans le sens où posée?
Non, on n'a pas une vie spécialement posée ou autre, mais c'est que la longévité d'un groupe, ça tient aussi au fait que t'es à l'écoute des autres membres du groupe et que si tu te dis, là, faut faire un album parce qu'on va en vendre plein, puis après, faut enchaîner et partir en tournée, il y a un moment où t'es fatigué. Si tu t'écoutes pas, tu te dis pas, je suis fatigué, là, je vais me taper 100 dates cette année et là, j'ai pas envie d'enchaîner sur un disque tout de suite. Tu vas en studio et tu te tapes dessus et tu splits. Nous, ça a tenu parce qu'on a su s'écouter et se dire là, une fois en fin de tournée, on devait partir enregistrer un nouvel album, on s'est dit là, on n'a pas envie. Donc, on a fait un break de 3-4 mois et après, du coup, on avait envie de le faire, on l'a fait, on avait envie de repartir en tournée, quoi.
D'accord. Ok. Dis-moi, le côté théâtral des Washington Dead Cats, qui fait quand même partie vraiment de la marque de fabrique, est-ce que c'est quelque chose qui se travaille beaucoup au jour le jour ou est-ce que c'est devenu complètement spontané chez vous?
Je crois qu'on a toujours été assez spontané, ce qui rend nos concerts assez imprévisibles, je dirais. C'est-à-dire que c'est pas une chose qu'on peut répéter parce que quelque part on répond vachement à ce que nous envoie le public. C'est-à-dire que quand les gens sont, on les trouve pas assez actifs, on les pousse à être plus actifs, et quand ils le sont trop, voilà. Donc c'est pas, on n'a pas de blague type qu'on raconte au même endroit au même moment. En disant, ça va les faire rire, on va emporter le truc. On est un groupe de rock, on est instinctif.
D'accord.
On fait une musique qui, comme le blues, entre autres, est une musique, le rock'n'roll, le punk ou le blues, c'est avant tout des musiques instinctives, donc on reste basiquement instinctif. Pas primitif.
Oui, d'accord. Est-ce que tu penses que justement les, enfin, je sais pas si tu vois beaucoup de concerts à l'heure actuelle, mais est-ce que tu trouves que les groupes de rock, de punk, etc., maintenant restent aussi un peu dans l'instinctif ou tout est un peu cadenassé avec des codes?
En fait, une histoire de personnes et de mentalité de groupe, c'est-à-dire que, ou parfois de style de musique, c'est-à-dire que je trouve qu'un groupe, il y avait un groupe qui s'appelait Jim Jones Review qui tournait, ils avaient gardé ce truc-là très instinctif, très primal du rock, c'était vachement intéressant. Après, il nous arrivait d'avoir des groupes de pop-rock en première partie où les mecs, t'as l'impression qu'ils ont passé leur temps à écouter des disques, qu'ils veulent reproduire le même son, qu'ils ont regardé des clips et qu'ils veulent avoir la même attitude. Et à un moment, t'as envie de leur dire, mais toi, t'es qui? Pourquoi t'es là, t'as quoi donner aux gens à part genre j'ai envie de faire un groupe comme ça parce que ça marche et c'est pas un job en fait de faire de la musique au sens si tu commences à faire un groupe en te disant je vais faire carrière et je vais gagner 4000 euros par mois, faut pas faire de la musique. C'est-à-dire que quand ça t'arrive c'est bien, mais nous on a commencé à faire un groupe parce qu'on avait envie de faire du rock et de tout casser, et de draguer des filles, mais on n'a pas fait un groupe en se disant on va être fonctionnaire du rock, c'est pour ça qu'on tient encore. Parce que sinon ça serait déprimant. Nous on sera déprimant, on déprimera les gens et nos concerts sera déprimant. On n'aurait pas la même énergie.
Est-ce que c'est d'après toi le commerce qui a fait comme ça qu'il y a certaines personnes certains musiciens qui ont basculé du mauvais côté de la chose?
Je pense que c'est la banalisation de la musique en général, c'est-à-dire que avant, il y avait moins de groupes, il fallait vraiment se battre pour arriver à faire des concerts. Maintenant, tout le monde arrive un peu à faire un groupe, tout le monde arrive à faire un clip, à faire passer. Tout le monde s'est dit, avec un peu de chance, ça va passer sur YouTube, je vais faire 10 millions de vues, je vais devenir une star. Nous, ça ne nous est jamais venu à l'esprit de faire un clip pour avoir 10 millions de vues. Quand on faisait des clips parce qu'on avait envie de se marrer, de faire un truc marrant. Donc c'est plus les mêmes objectifs. Et puis toute cette connerie de Star Academy, de Voice, de machin, ça crée plein de gens qui pensent que même qu'on est le dernier des blaireaux, on a sa chance de devenir une star. Que en fait les gens font ces trucs là pour être connus. Ils font pas de la musique pour faire de la musique, ils font de la musique pour être connus. Je pense pas que Mozart à l'époque faisait de la musique pour être connu, il faisait de la musique parce qu'il a envie de faire de la musique, et tous les gens qui font de la musique, peu importe, que ce soit du jazz, du blues, du rockabilly, du punk rock, font de la musique normalement parce qu'ils ont envie de faire avant tout de la musique, puis si on est connu c'est super, mais tu montes pas un projet. Moi je vois plein de groupes où les mecs ils montent des projets. Au bout de deux, alors ça sort, il y a un peu de buzz, ils font des festivals. Au bout de deux ans, trois ans, ça n'a pas si bien marché, ils arrêtent ce projet-là. Ils se mettent avec un autre mec, avec un autre projet dans le même genre qui avait marchoté. S'ils disent ensemble, on peut, entre nos deux projets qu'on marchanté, on se met ensemble, on va faire un autre projet qui va peut-être marcher mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de carrière de groupe, il n'y a plus d'évolution. Il n'y a pas un artiste qui évolue, c'est des projets mis bout à bout, et en fait, ça devient du marketing, ça devient plus de la musique.
Oui, donc si je te comprends bien, en fait, il y a quand même une notion importante, une notion de lutter pour réaliser quelque chose. Quoi. Il faut batailler, il faut lutter, voilà.
Ben, en fait, ce qui nous intéresse avant tout, nous, c'est la création artistique sous toutes ses pentes, c'est-à-dire aussi bien faire une pochette que faire un disque, que faire des chansons, et puis que tout ça vive sur scène.
D'accord.
Moi, je m'en fous. D'être connu. On a été plus connu dans les années 90. On aurait pu s'arrêter là. Ce qui nous a fait arrêter, c'est qu'on a fait un mauvais disque et qu'on s'était perdu et qu'on s'est posé des questions et qu'il y a eu une remise en question et qu'on a attendu d'avoir de nouveau l'envie. Moi, je trouve ça plus sain. Si on s'est performé en se disant, bon, on a fait un mauvais disque, mais en faisant comme ça, on peut peut-être rattraper le coup et on n'est pas comme ça. On peut pas lutter contre sa nature.
Ok. Dis-moi là, tiens, à contrario, est-ce que vous avez fait avec les Washington Red Cats des sessions acoustiques, des concerts acoustiques qui donneraient certainement quelque chose de complètement différent? Oui,
on en a fait. Puis là, sur le dernier album, en fait, on a fait une session acoustique et le 14e morceau, c'est contrebasse, banjo, caisse claire voix. Et on a enregistré 4 morceaux. Donc à long terme, les 3 autres morceaux, elles sortent sur un 45 tours.
Et ça donne quelque chose de complètement différent, selon toi, dans l'esprit?
On garde, en fait, qu'on joue électrique ou acoustique, on garde la même énergie et la même façon de procéder. Donc c'est pas si différent, en fait. Ça fait moins mal aux oreilles.
D'accord.
En fait, on fait de la musique de la même manière, qu'elle soit acoustique ou électrique. Je pense que dans ma manière de chanter, je chante pareil.
D'accord.
Ouais, dans notre manière de jouer, de vouloir pousser les trucs, on le fait de la même manière.
Dis-moi, en 30 ans de Washington Dead Cats, est-ce qu'il y a eu, ce qui est quand même assez hallucinant, hein, 30 ans, est-ce qu'il y a eu dans les longues tournées que vous avez eues, des moments clés ou des histoires qui fédèrent? Des choses qui font que voilà, ça relance la machine pour longtemps, ou est-ce que c'est du quotidien qui a fait que ça s'est fait tout simplement?
Je pense que toutes nos tournées ont été des trucs. On n'a pas fait une tournée où il s'est pas passé un truc incroyable, où il s'est pas passé un truc qui aurait pu faire splitter un autre groupe, ou des moments magiques où t'as l'impression d'être le plus grand groupe du monde. Mais tout ça mis bout à bout, le moment qui est vraiment merdique et le moment qui est super génial, ça crée un truc où ça rend les gens beaucoup plus unis entre eux, et puis ça nous permet d'avancer. C'est-à-dire qu'on joue devant 10 personnes ou devant 10 000 personnes, on joue de la même manière. C'est un truc qu'on a appris au fil du temps. À partir du moment où il y a 10 personnes, c'est même plus dur de jouer devant 10 personnes, parce qu'il est évident que tu arrives dans une salle, si tu as 10 personnes là, au fin fond de la Tchécoslovaquie, la Slovaquie, l'ambiance va être pourrie. Si tu fais pas ton boulot, tu leur dis pas, ou on se fait tous chier, ou on a décidé de tout s'amuser, voilà, quoi. Donc, nous, on vient quand même pour que les gens s'amusent. Donc, en général, ça se finit bien, parce qu'on finit au bar avec les gens, et tout le monde passe une bonne soirée. Le truc étant de passer une bonne soirée, mais tu gères pas pareil. Enfin, quand je dis 10 ou 10 000, tu gères pas une énorme salle, un gros festival, de la même manière, mais tu peux vivre des choses dans une toute petite salle qui te marqueront autant que sur des gros festivals, quoi.
D'accord. Musicalement, est-ce qu'il y a certaines chapelles du rock qui vous en veulent encore un peu de faire du mélange ou pas?
Non, les puristes. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'à nos débuts, il y avait pas mal de puristes qui nous en voulaient, qui considéraient qu'on profanait le rockabilly dans la manière dont on l'interprétait. Et que c'est vrai qu'on était en plus, entre guillemets, le fait de faire des concerts antifascistes, etc., on nous disait il faut pas mélanger politique et musique. Ce à quoi on répondait, Elvis, il était rebelle en 56 parce qu'il chantait comme un noir, pas parce qu'il était propre sur lui, et le rock, par essence, doit être rebelle. Nous, quand on a commencé dans les années 80, le gros problème, c'était le Front National, et faire un vrai groupe de rock, c'était être rebelle, c'était pas juste en 85 ou 84, copier ce que faisait Elvis en 56, ça s'appelle du mal. Ça n'a pas d'intérêt.
D'accord.
Mais après, le mal, c'est honorable, mais c'est pas un groupe de rock, quoi.
Dis-moi, le côté antiraciste, là, le côté lutte, c'est quelque chose que vous prolongez à l'extérieur de la vie du groupe? Enfin, je sais pas, en termes associatifs ou des choses de ce genre-là?
Pour certains d'entre nous qui sont dans des assos ou autres, quoi.
D'accord.
Et il est évident que faisant le type de musique qu'on fait, ça me paraît difficile enfin, quand tu vois que notre musique vient du rock'n'roll, qui est à 75% une musique noire, et que le punk rock, c'était quand même à la base une musique rebelle, et les Clash, aussi bien que Dead Kennedys ou Stiff Little Finger, étaient tous des groupes engagés antifascistes ou antiracistes, ça serait difficile de faire la musique qu'on fait en prêchant le contraire, ou en allant jouer pour le Front National.
Oui, enfin, vous faites partie quand même vous faites partie d'une certaine génération qui a conscience encore de ça. Après, je sais pas si les jeunes groupes de maintenant ont encore ce rapport à l'histoire, tu sais, en fait.
C'est une histoire de génération, parce que je pense que les jeunes sont, déshabillés par les hommes politiques et qui adorent. Quand on voit Macron actuellement, ou quand on a vu Sarkozy avant, on se dit, mais ils sont plus pareils. C'est quand même une vraie problématique. On a l'impression que les hommes politiques maintenant, c'est ce que nous disent les jeunes, font de la politique pour eux-mêmes, pour faire carrière et gagner du fric, mais ils font plus de la politique comme nous on l'imaginait avant, pour le bien du peuple. Parce que quand on était plus jeune, on avait l'impression que ce soit ou Pompidou, ou Giscard même, ou Mitterrand, que c'était des gens qui s'étaient engagés en politique et étaient là pour le peuple, même si c'était peut-être pas avec le recul à 100% vrai. On a l'impression qu'ils travaillaient pour nous, même si on partageait pas leurs idées. Alors qu'actuellement, on n'a pas l'impression qu'ils travaillent pour nous, ces gens-là. On a l'impression qu'ils travaillent pour eux. Voilà. Donc, c'est un peu problématique. C'est pour ça que je pense que les jeunes sont déshabillés et moins engagés.
D'accord. On va se passer un deuxième morceau.
Voilà.
Oui. On va se passer on va se passer un deuxième morceau là, des Washington Dead Cats, donc Redhead Girl with a Blue Dress On. Pardon? J'ai pas.
C'est une balade.
Oui. Est-ce que ce morceau-là et le morceau d'avant, tu as quelque chose de particulier à dire?
Only Vinyl School, c'est nous c'est notre côté rock'n'roll vintage, c'est-à-dire que moi je suis aussi graphiste et j'ai fait la pochette entre autres. Moi j'aime bien tenir un objet, c'est-à-dire une pochette de disque, je le sors, je trouve que le vinyle, il y a une vraie relation avec l'objet, le disque, que m'apporte pas le MP3. Je trouve pas ça cool le MP3. Moi je vois j'ai des potes qui m'envoient des albums en MP3, je télécharge, j'écoute. Finalement, je sais pas à quoi ressemble la pochette, je sais pas quel morceau est le premier, je sais pas dans quel ordre ça doit s'écouter, et ça a pas de sens. Je trouve que la musique doit avoir du sens, faire un album, ça doit avoir du sens. C'est-à-dire que là, tu as passé une balade, cette balade, elle répond à 13 autres morceaux qui sont pas des balades. On en a fait une parce qu'il fallait qu'il y ait un moment de repos sur le disque aussi, quoi.
D'accord. Ok. Bon, ben, on va se passer ce deuxième morceau, donc on se retrouve juste après. C'est parti. Stole my heart. donc deuxième morceau des Washington Dead Cats, donc toujours en vue du concert du 31 octobre. Alors ça se passera au Café Musique de Mont-de-Marsan, mais l'asso organisant n'est pas la MAC, mais donc l'association Docteur Boogie, donc avec les Jokers de Saint-Étienne, n'importe quoi, de Saint-Sever, c'est un petit peu plus proche que Saint-Étienne. Alors, qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, dis-moi le line-up des Washington Dead Cats, ça a quand même pas mal changé avec les années. Quels sont les permanents en fait depuis le départ?
Bah moi.
Hein, ouais, c'est déjà pas mal.
Je suis le chanteur. Après, le batteur est là depuis 24 ans.
Ah ouais.
Pardon. Le saxo est là depuis 22 ans, je pense, au moins. Et après, on a notre guitariste qui était là depuis 20 ans, Lord Fester, a arrêté parce qu'il fait aussi de la bande dessinée.
Oui.
Sous le nom de Fred Beltran, il a un gros projet de bande dessinée et là, il pouvait pas tout faire. Et à un moment donné, il te dit, j'y arrive plus. Parce qu'on partait jouer 3 jours, lui, le jour d'avant, il n'avait pas dessiné, le jour d'après, en revenant non plus. Donc,
ah oui, d'accord.
Je voyais mal appeler son éditeur et lui dire, pendant 5 mois, je dessine pas, mais je veux bien une avance. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc il a arrêté et on l'a remplacé par Adrien. Il se trouve que moi, le batteur et le bassiste, on avait monté un autre groupe à côté. 4-5 mois avant que Fred décide d'arrêter le groupe. Et en fait, on jouait déjà ensemble. Donc du coup, quand Fred a dit j'arrête, on l'a proposé à The Duke, qui jouait déjà avec nous. Donc c'était assez simple, en fait. Ça n'a pas été compliqué. Pareil, il y en a positionné. C'était déjà devenu un pote. Donc on a dit, bah tiens, est-ce que tu veux jouer avec nous?
D'accord.
Et du coup, ça s'est fait très vite. Après, on a composé et enregistré l'album à Saint-Jean-de-Védas, là, près de Montpellier. On a tout fait en 3 mois.
D'accord. Mais c'est quoi les groupes que vous avez à côté? Parce que tu t'as cité sans les citer.
Ah ben, oui, alors, oh là là, on en a plein. Notre bassiste qui joue aussi de la contrebasse, un big band de jazz un peu dans le genre du Brian Setzer Orchestra. Mm-hmm. Et puis il a un groupe de musique sud-américaine. Notre guitariste a un truc plus genre White Stripes, un peu qui s'appelle Clinic Rodeo et un autre groupe genre musique.
Ah d'accord, italienne, je connais, oui.
Voilà. Puis il a un autre groupe, genre musique de film italienne. Nous, on est des fans de musique de film, genre Ennio Morricone, tous ces trucs-là. Donc, il se trouve qu'il a un groupe dans ce genre-là qui s'appelle Furioso. Moi, j'ai un groupe de jazz crooner, ce nom de Matt Feierer, Diana Dans of School. Et notre batteur jouait dans La Bonne, la Brute et le Truand, joue dans Lord Fester, qui est le groupe de notre ancien guitariste. Et joue maintenant, alors, La Bonne, la Brute et le Truand, qui était le groupe de Cromwell, un autre dessinateur de bande dessinée, qui vient de faire la couve du tribute qui va sortir, mais c'est des histoires de potes. Voilà, à arrêter, mais du coup, il joue avec un autre groupe qui s'appelle Cooking with Elvis.
D'accord.
Etc, quoi. On est tous dans pas mal de groupes à côté, quoi.
Oui mais je viens de faire plein de liens, parce qu'il y a plein de choses que tu m'as citées, dont j'ai des disques. Donc,
c'est ce qui nous permet aussi de tenir le groupe, parce que je vais pas aller faire un album de jazz crooner avec les Wash, ça aurait pas de sens. Donc je le fais à côté, ça nous permet de garder nos jardins secrets et nos autres en vie à côté, en gardant, en laissant les Wash être ce qu'ils doivent être, quoi.
D'accord. Dis-moi, en termes de, tu as cité, je crois un peu l'aspect cinématographique tout à l'heure, je sais plus comment t'avais dit ça, mais après il y a la BD, il y a des, c'est quoi les choses extérieur qui pourrait avoir une influence sur la musique des Washington Dead Cats, voilà, je sais pas moi, grosso modo, qu'est-ce que vous regardez en termes de films, en termes de BD, qu'est-ce que vous aimez ou...
À la base, notre plus grande influence, c'est les films d'horreur des années 30-40 de la Universal, tous les films avec Bela Lugosi, Boris Karloff, tous les remakes de ça, de la Hammer, et tous les films de science-fiction des années 50, tout ce qui a été repris aussi, tu vois, quand tu vois Mars Attack par exemple, c'est vraiment basé sur cette culture là par exemple. Tu vois, on a vachement été de manière indirecte influencé par Pulp Fiction, parce que ça rejoint notre manière de voir le cinéma aussi. C'est-à-dire qu'on est plus influencé par du cinéma de style que par du cinéma grand public.
D'accord.
Voilà. Donc après, et en bande dessinée, c'est large. Enfin, tu vois, entre Fred qui fait de la bande dessinée, nos potes comme Cromwell qui ont fait, enfin, tu vois, ça reste un truc assez large. Ça va de Tintin à Fred Beltran chez nous, la bande dessinée.
Pourtant, tu me dis que sur le dernier, c'est toi qui as fait le visuel?
Oui. Oui, parce que moi, je suis graphiste à côté. Ouais, donc, voilà. Moi, je suis influencé par encore d'autres choses, un graphiste américain qui s'appelle Saul Bass, par exemple, qui a fait des génériques pour Hitchcock ou des choses comme ça. Donc, tu vois, on a des influences malgré tout assez larges en termes de graphisme, de bande dessinée, on a commencé par faire du graffiti, donc du pochoir. Donc, enfin, tu vois, ça fait partie de plein de choses connexes à côté qui font que ça nourrit le groupe.
D'accord. Je me rappelle d'un visuel justement de que vous aviez fait pour un disque chez Bifast, c'est ça? C'était un picture disc. Tiens, d'ailleurs, je tape sur le micro, ça me permet juste de te poser une question sur le label. Là. Quel label qui sort là, le disque? J'ai pas fait gaffe.
Alors, c'est sorti par Bifast, entre autres, et Pias Plate Against Sam.
D'accord,
qui est distributeur. Nous, on a notre propre label, et en fait, sur ce disque-là, on a travaillé avec Bifast. C'est-à-dire que notre propre label est Bifast, en collaboration avec Pias Plate Against Sam en distribution.
D'accord. Ok. Vous avez toute une connexion du côté de cette zone géographique, c'est Saint-Jean-de-Védas, etc.,
oui,
Montpellier, tout ça.
C'est notre deuxième maison maintenant.
Ouais.
Voilà, parce que, en fait, ça s'est fait par hasard. On est allé jouer là-bas en 2003 pour l'anniversaire du patron de la Secret Place. Et c'est devenu un pote. Et au fil du temps, ils nous ont fait jouer plusieurs fois parce qu'on s'entendait bien. Après, ils ont monté un studio là cette année. On a collaboré sur les disques d'avant qu'on produisait. Ils travaillaient sur toute la distribution de nos vinyles. Puis là, on est allé un petit peu plus loin. Ils avaient un studio. On est allé enregistrer chez eux.
D'accord. Et, tiens, d'ailleurs, vous étiez de la partie là pour la reformation des Shérifs. Il me semble bien que vous y étiez.
Tout à fait.
Un souvenir de cette soirée?
C'est vrai qu'on... Bah, c'est passé vite, hein.
Ouais. Mais c'est l'impression qu'on a eue sur place aussi, ouais.
Il y avait plein de monde. Moi, j'ai un truc perso, c'est que ce soir-là, je dis aux autres, je veux pas chanter Pizza Attack. Ça fait 25 ans que je le chante pour une fois, on va pas le faire. Et en fait, je suis descendu de scène, et dès la deuxième marche, j'ai pas posé le pied encore par terre, qu'il y avait des gens qui disaient, mais vous avez passé Pizza Attack? Et toute la soirée, j'ai eu cette question-là. C'est pas possible. Donc du coup, on l'a remis, on l'a fait de nouveau, et après, j'ai fait DJ, et ça a fini tard. Ça a fini tard pour moi. J'ai perdu quelques 45 tours d'écran, des trucs comme ça que je retrouverai jamais, parce que je crois que je les ai oubliés.
Ah.
Voilà.
C'est ballot.
C'était une grosse fête après. C'est marrant. Quoi.
Ouais, c'était
impressionnant que ce groupe-là se reforme et qu'il y ait autant de monde d'un coup. Quoi. C'était un peu un événement type rock alternatif. Ils ont joué à 7 cet été d'ailleurs.
Oui, mais samedi, ils étaient à Mont-de-Marsan. Il y avait 1500 personnes encore.
Là, ils ont joué à 7 et c'est moi qui ai fait l'affiche sur le festival de 7.
D'accord.
Comme quoi, on est vraiment lié avec le Sud.
D'accord. Est-ce qu'on peut dire, on va peut-être terminer là-dessus d'ailleurs, enfin avant juste d'aborder l'actualité, enfin les trucs qui se passent là, parce qu'il y a plusieurs choses sur plusieurs mois. Est-ce que les Washington Nightcats c'est un groupe sans limite en termes de création ou est-ce que vous avez quand même un état d'esprit, un truc défini, tu sais, musicalement?
Oui, je pense qu'on a quand même un truc défini, c'est-à-dire que on voit pas une seule minute joie, l'ajout de MOOC ou de trucs comme ça ou de machine au sein du groupe. Tu vois, à long terme, comme je vois pas le groupe se mettre à faire du doom metal ou du rock chrétien. Je pense qu'on regardera toujours les mêmes influences musicales et la même manière de procéder. En plus, on a la chance d'avoir une section de cuivre, ce qui permet quand même d'enrichir suffisamment la musique pour rendre le tout intéressant et ouvrir à pas mal de possibilités. Sur cet album-là, on a mis de la contrebasse, c'est ce qu'on n'avait jamais fait. Enfin, tu vois, entre trombone, trompette, saxo, contrebasse, basse, batterie, guitare, chant, banjo, etc. On a de quoi ouvrir déjà sans essayer de faire un truc hype. De toute façon, on n'est pas un groupe hype, on est un groupe de rock'n'roll, donc on sera jamais hype au sens où on l'entend en soirée, où on écoute de la techno.
Tiens, alors, on va terminer sur une chose, ce qui me paraît aussi quand même très important, c'est justement, il y a plein de trucs là qui se font, qui se sont faits ou qui vont se faire dans les temps, sur 3-4 mois là, il y a plein de choses. Donc tu peux me faire le récapitulatif un petit peu de tout ça.
En fait, voilà, ouais, alors disons qu'à partir de 2016, il y a la réédition, en vinyle des deux premiers albums, en vinyle coloré, du premier Go Vegetables Go et Go Abdi Boogie. Parallèlement à ça, il y a un tribute qui sort avec 14 groupes qui reprennent des morceaux des Wash avec une pochette de Cromwell, donc ça c'est Bifast qui a fait ça. Donc il y a les groupes les plus différents, comme Tagada Jones ou les Messer Shoops, les Fatal Picard, les Noitemaker, Brain Eaters, Rika, Manor Freaks, Astro Zombies, donc il y a aussi bien toi, Tagada Jones qui font plutôt du rock bourrin, que les Astro Zombies qui font du psychobilly, que les Messer Shoops qui font du surf, qui est un groupe russe qui font du surf, que les Fatal Picard qui sont plus rock français, je dirais, donc c'est assez étonnant, quoi. C'est assez étonnant. Et, après ça, il y a un bouquin qui devrait sortir entre septembre et Noël l'année prochaine. Et il y a un mec qui tourne un documentaire depuis 2 ans ou 3 ans. Donc, ça, c'est son projet. Donc, là, il a lancé un crowdfunding. Il a fait un site washington.cats-lefilm.com. Il y a déjà 4 teasers en ligne. Et voilà. Donc, mais ça, c'est indépendant de nous. C'est-à-dire que ça se fait, mais c'est pas nous qui gérons ça. On est moins impliqués en ce sens qu'on est juste filmé.
D'accord.
Voilà. Quand on fait un disque, on fait tout. Quand, là, il fait un film. Nous, il est venu, il nous a filmé. Et puis, on fait juste les clowns comme d'hab, quoi.
Ok. Ouais.
Bon. Je ne donne pas des grandes répliques shakespeariennes devant la caméra en toge.
Ah, ça te rassure. Il faut travailler le contraste, les différences. Ok, écoute, il me reste à te remercier. Et on va se quitter sur un dernier morceau. Donc c'est I Got to Get You, c'est bien ça le titre.
D'accord.
Je ne me suis pas trompé.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et donc un grand merci. Hein, et puis on se retrouvera, on se verra le 31. Donc au Café Musique, voilà, avec les Jokers en ouverture. Merci à toi.
Ok. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Girl, I got to get you now. I got to get you. I got to get you.
Voilà, donc encore un grand merci à Matt des Washington Dead Cats. Je crois que cette interview était assez complète. En tout cas, les réponses étaient assez complètes, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y avait plein de choses à aborder. Ce genre de groupe qui a un gros vécu, c'est toujours hyper, hyper intéressant. Ça ne change pas. Je sais qu'à chaque fois, je vais me faire plaisir, tout simplement. Donc, on va se quitter sur deux morceaux, John Lindbergh Trio et Mountain Man. On va se donner donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre interview. Je vous rappelle que tous les vendredis soirs, à minuit, il y a la playlist. Ça, c'est uniquement sur Radio MDM. Voilà. On a continué à sourire, à se faire plaisir ce soir, comme ça a été le cas samedi dernier, pour le concert avec les Shérifs, Capsula, etc., etc. Et puis, on continuera aussi à se faire plaisir ce week-end. Donc, je vous rappelle, Topsy Turvies, c'est au Pochin, Place Pitrac, à Mont-de-Marsan. Mais il y a aussi, ça c'est dimanche à 20h, il y a aussi samedi soir, donc au Café Musique Barren Sweetfield. Énorme personnage, énorme musicien à voir. Ce sera après le match de rugby, donc n'arrivez pas à 9h, ça sert à rien. Ce sera après l'ouverture des portes et puis il y a Urban Land tout le week-end. Voilà, ciao, bye bye, à la semaine prochaine.
It's been 10 long years since I left my home in the hollow where I was born, where the cool fall nights make the woods more bright. Fox Hunter blow his horn. I fell in love with a girl from the town. I thought that she would be true. way to Charlottesville and worked in a sawmill or two. What have they done to the old home place? Why did they tear it down? And why did I leave the plow in the field and look for a job in the town? My girl, she ran off with somebody else. Taverns to call my pay, and here I stand where the whole home stood before the two. What have they done to the old home place? Why did they tear it down? And why did I leave job in the town? Fly south and the cold wind blows as I stand here and hang my head. I've lost my love, oh, I've lost my home, and now I wish that I was dead. I've lost my love, oh, I've lost my home, and now I wish that I was dead.